Bien, bah écoutez, je vous remercie et je vous remercie tous d'être présents pour cette première journée à la Bibliothèque des années d'instruction. Alors l'étude présentée aujourd'hui, donc le titre évocation de l'hôtel Montrésor et de ses occupants, évidemment ce n'est qu'une simple évocation. Je vais vous présenter le résultat d'une enquête encore inachevée. À ce jour, en effet, aucune étude n'a été faite sur l'hôtel dit de Montrésor ou de Gourgues, et à l'exception de Jean-Pierre Bablon, dont nous connaissons tous les demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII, la plupart des auteurs qui font mention de ces deux bâtiments, les 52 et 54 de la rue de Turenne, commettent des bévues parfois grossières, y compris, hélas, Jacques Hilairet et ses successeurs, dans le monumental dictionnaire historique des rues de Paris, dont les rééditions successives ne semblent pas tirer profit des travaux de Bablon, du moins en ce qui concerne notre hôtel et ses abords. Je vais y revenir. J'ai moi-même d'ailleurs commis quelques erreurs en rédigeant pour la Bibliothèque des Amis de l'Instruction une petite notice sur l'hôtel de Gourgues, en me référant à ses ouvrages un peu trop généralistes et en leur faisant confiance. Les abords, je l'ai dit tout à l'heure, ont été étudiés par Bablon, et cet exposé leur doit beaucoup, notamment dans le bulletin de la Société d'Histoire de Paris et de l'Île-de-France. En 1978, Bablon a écrit un article, je donne le titre, « L'hôtel dit du Grand Veneur et ses abords, études topographiques et inventaires archéologiques de l'îlot compris entre la rue de Turenne et le boulevard Beaumarchais, la rue Saint-Claude et la rue Saint-Gilles ». Il y a peu de choses sur notre hôtel à proprement dit, mais cet article est intéressant car on y traite de l'hôtel des Quevilly, l'hôtel dit du Grand Veneur, au 60 de la rue de Turenne, donc à deux pas d'ici, et le terrain sur lequel a été bâti cet hôtel appartient au même lotissement que les 52 et 54 de la rue de Turenne. Outre l'article de Bablon, on peut également consulter quelques fonds d'archives, étudier un bâtiment ou un immeuble. C'est assez proche d'une étude généalogique, en dehors de toute considération architecturale. On essaie de remonter le temps de propriétaire en propriétaire, notamment à l'aide des archives notariales, et en particulier nous disposons aux archives nationales du minutier central. Également, on fait appel aux archives fiscales, cadastrales, etc. Sans oublier le sommier foncier de la ville de Paris, qui est conservé aux ex-archives de la Seine, dit aujourd'hui archives de Paris, mais tout en sachant que l'on peut parfois rencontrer quelques difficultés résultant de l'incendie du 24 mai 1871. Alors cette problématique ayant été brièvement évoquée, de quoi sera fait mon exposé? Eh bien, l'hôtel dit de Gourgues ou de Montrésor, l'appellation se termine avec la Révolution, c'est la raison pour laquelle je m'en tiendrai essentiellement aux origines du lotissement. J'aborderai également les propriétaires des 17e et 18e siècles. Quant au 19e siècle, je l'évoquerai brièvement. N'étant aucunement qualifié pour aborder une étude architecturale, j'en ferai une description très sommaire, très rapide même, en faisant appel à quelques rapports et communications présentés à la Commission du Vieux-Paris. Alors, s'agit-il d'un ou deux hôtels? Je l'évoquerai ultérieurement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les bâtiments sont composés, disons, de deux bâtiments jumeaux, et si cette gémellité est peu visible de l'extérieur, en effet, quand on regarde les bâtiments sur la rue, il n'est pas évident qu'il s'agisse de deux hôtels dits jumeaux. Par contre, lorsque l'on a accès à la cour, que nous ne verrons pas malheureusement aujourd'hui, le fait qu'il s'agisse de deux bâtiments jumeaux est incontestable. À noter, cette particularité de bâtiments jumeaux n'est pas unique à Paris. Bablon cite notamment rue de Beaune, dans le 7e arrondissement, les hôtels de Villette et d'Autrive, construits à la fin du règne de Louis XIII, comme nos bâtiments, ainsi que au coin de la rue des Saint-Pères et du quai Malaquais, dans le 6e arrondissement, les hôtels construits pour Louis de Falconi, sieur d'Alfort. Alors, dans les rapports de la commission du Vieux-Paris, on trouve rarement mention de l'hôtel de Gourgues ou de Montrésor. J'en ai, pour ma part, relevé trois, et notamment à la séance du 27 janvier 1917, j'ai relevé cette communication de Louis Bonnier concernant les 52-54 rue de Turenne. Je vous la lis brièvement. Cette façade est alignée. Elle a conservé quelques grandeurs d'aspect, Mis à part les sévices habituels que ces antiques bâtisses ont à supporter du temps, nous les avons trop souvent constatés pour y revenir encore en détail. Ce qui nous paraît le plus frappant dans la défiguration de l'ensemble est la modification probable de l'aspect des toitures qui, nous semble-t-il, devait former une masse plus importante et sans la mesquinerie d'aspect que nous constatons dans l'état actuel. Une des caractéristiques de cette élévation est la double porte monumentale répondant à un besoin pratique pour la circulation des voitures. Alors, cette double porte, nous la voyons encore par l'entrée du 52 et 54. La cour a perdu beaucoup de son caractère par la construction d'un bâtiment annexe qui sépare les deux écoles. Il y aurait lieu, à notre avis, de chercher à remplacer cette annexe par une grille à jour qui rendrait à l'ensemble son ampleur originelle. Les élévations sur cour de ces différents bâtiments sont intéressantes, en ce qu'elles ont gardé assez fidèlement, à part quelques détails, leurs anciennes allures. Le caractère principal en est surtout accusé par le mouvement des lucarnes, se découpant sur les combles. Notons dans une part du rez-de-chaussée d'une de ces cours, une série d'arcatures en anses de panier, dont les tympans sont en trois endroits, remplis par ces grands cartouches aux cadres involutes, comme l'époque de Louis XIII et Multiplia. En ce qui concerne la cour, c'est la mention peut-être la plus intéressante. Nous sommes en 1917, nous sommes déjà dans un ensemble constitué de deux écoles, une école maternelle et une école de garçons. Il y avait donc une séparation entre les deux cours, et cette séparation, la commission du Vieux Paris demande qu'elle soit supprimée pour être remplacée par une grille à jour, ce qui sera fait au cours de l'été 92, c'est-à-dire il a fallu tout ce temps jusqu'à ces dernières semaines pour que le vœu de la commission du Vieux Paris soit exaucé. Mais il faut dire qu'en 1917, il est certain que la ville de Paris avait certainement d'autres préoccupations. Le numéro 54, où nous nous trouvons actuellement, lors de son acquisition par la ville de Paris, a fait l'objet d'un bref commentaire lors d'une communication de Lucien Lambeau à la séance du 27 février 1909. C'est très court, je vous la lis. Très pur de lignes architecturales, très sobre d'étages, cette gracieuse maison est surmontée d'un fronton triangulaire et est décorée de motifs sculptés dans le goût si délicat du XVIIIe siècle. Console, mascaron, clé de fenêtre en tête de femme, beau balcon en fer forgé, nous pourrons actuellement les voir lorsque nous sommes sur la rue. Et au cours de cette même séance, du 27 février 1909, la commission du Vieux Paris a émis le vœu, d'une part, qu'un nettoyage complet des archives administratives, je cite, qui sont apposées sur la façade soit exécuté avec établissement d'un écriteau portant défense d'afficher, et qu'aucune surélévation ni modification de façade ne soit apportée à l'immeuble communal de la rue de Turenne, sauf la suppression de deux boutiques, si les baux le permettaient. Et en effet, la commission du Vieux Paris joint à son rapport une photographie prise probablement en 1908 de la façade du numéro 54, qui est défigurée par les coffrages en bois de deux commerces. Et effectivement, à gauche, où se situe l'actuelle bibliothèque des habits de l'instruction, nous avons un artisan menuisier, et évidemment le coffrage en bois, là, aujourd'hui, a disparu. Et à droite, nous avons une boulangerie au Grand Turenne, Maison Gros, B-R-A-U-L-V, boulangerie qui aujourd'hui, évidemment, a disparu. Outre cette façade sur rue et sur cour, il faut noter au numéro 52 un escalier du XVIIIe siècle, toujours visible, et au numéro 54 un escalier du XVIIe, avec l'emploi du bois parmi les matériaux, au-delà de l'entresol. Tout aujourd'hui a été heureusement restauré, malgré les aménagements et modifications apportées pour permettre les règles de sécurité nécessaires à tout établissement scolaire, notamment au niveau des rampes. Quant aux bureaux et salles de classe, évidemment, ils ne permettent pas de se faire quelque idée de son aménagement d'origine. À noter également, et dernière communication à la commission du Vieux Paris, le 8 mai 1961, Michel Fleury donnait lecture d'une lettre d'un professeur de dessin, M. Buisson, qui signalait à l'occasion de travaux, il y en avait donc déjà eu, la découverte d'une poutre ornée de peinture d'époque Louis XIII. Malheureusement, je n'ai pu voir cette poutre, ni la moindre photo. Dans la lettre, il était signalé sur cette poutre, notamment des figures d'animaux. Évidemment, les jardins qui donnaient sur l'actuelle rue Villehardouin ont disparu. On les aperçoit cependant sur le plan de Turgot de 1739. Jardin est coupé en deux, ce qui nous montre déjà que nous avons bien affaire à deux hôtels, et l'appellation hôtel de Gourgues pour l'ensemble me semble abusif. À plusieurs reprises, J'ai parlé des numéros 52 et 54 de la rue Turenne. J'ai dit, voici il y a quelques secondes, j'ai parlé de l'actuelle rue Villehardouin. Ces précisions topographiques et ces appellations ne sont valables que depuis 1865. À cette date, la rue de Turenne résulte de la fusion de deux rues. D'une part, la rue du Val-Sainte-Catherine, qui partait de la rue Saint-Antoine jusqu'à, je dirais, l'actuelle rue des Francs-Bourgeois, car à l'origine, ce n'était pas la rue des Francs-Bourgeois dans toute sa longueur actuelle. Il y avait d'un côté la rue Neuve-Sainte-Catherine, qui arrivait l'actuelle rue de Turenne. De l'autre côté, c'était la rue de l'Écharpe. Donc la rue de Turenne, c'est la fusion de deux rues, la rue du Val-Sainte-Catherine d'une part, et la rue Saint-Louis, qui partait donc de ce croisement et qui allait jusqu'à hauteur de la rue Charlot. Quant à la rue Villehardouin, elle résulte elle aussi de la fusion de deux rues qui se joignaient en angle droit. D'une part, en partant de la rue Saint-Gilles, la rue Neuve-Saint-Pierre, à ne pas confondre évidemment avec la rue Neuve-Saint-Pierre dans le 4e arrondissement, qui elle date, je crois, de 1912-1913, et la rue des Douze-Portes. Rue des Douze-Portes, je vous expliquerai pourquoi ultérieurement. Ces remarques sont utiles car lorsque l'on cherche dans les différents fonds d'archives des renseignements sur une maison, il faut évidemment savoir la situer. Je vais faire un petit rappel sur le quartier. Depuis 1860, c'est-à-dire depuis la division de Paris en 20 arrondissements et 80 quartiers, notre petit pâté de maison constitué de rue de Turenne, Villehardouin et Saint-Gilles est donc situé dans le 3e arrondissement, 11e quartier, quartier des archives. Auparavant, c'est-à-dire depuis 1795, Paris était divisé en 12 arrondissements et 48 quartiers, et notre petit pâté de maison appartenait au 8e arrondissement et au 29e quartier, c'est-à-dire le quartier du Marais. Les numéros 52 et 54, c'est-à-dire cette numérotation, résulte de la fusion de 1865. Auparavant, nous n'étions pas rue Turenne, nous étions rue Saint-Louis, et le numéro 52 correspondait au 30 de la rue Saint-Louis. Quant au 54, où nous nous trouvons donc actuellement, c'était le 32 de la rue Saint-Louis. On peut considérer cette numérotation comme valable, du moins en ce qui concerne notre rue, depuis le premier empire. Quant au nom de la rue, de 1798 jusqu'à la Restauration, la rue a bien porté le nom de rue de Turenne. Sur la période précédente, c'est-à-dire 1790-1795, Paris était divisé en 48 sections, et notre pâté de maison, c'est-à-dire les 52 et 54 rue de Turenne, appartenait à la 33e section, qui a changé trois fois de nom. Ce fut d'abord la section de la Place Royale, puis ensuite, de 1792, avec la chute de la monarchie, la Place Royale, évidemment, ça, ce n'est pas tout à fait convenable. De 1792 à 1793, on a parlé de section des fédérés, et comme en 1793, avec la chute de la Gironde, le nom ne cadrait pas bien, eh bien c'est devenu, jusqu'en 1795, la section de l'indivisibilité. Le décret de l'Assemblée constituante du 23 novembre 1790, instituant la contribution foncière et prescrivant par la même le numérotage des maisons et des biens par section, ce qui fait qu'effectivement nous l'avions, alors le 30 et 32 de la rue Saint-Louis, ça n'existait plus, la numérotation imposée était un système assez compliqué, difficile à restituer. Encore une fois, les archives de Paris ont brûlé, donc on a du mal à restituer cette numérotation révolutionnaire pour toutes les sections. Malgré tout, si j'en crois Jeanne Pronto, qui a publié son numérotage des maisons de Paris du 15e siècle à nos jours, et en s'appuyant sur le sommier des biens nationaux de la ville de Paris conservés aux archives de la Seine, publié en 1920 par Hippolyte Monin et Lucien Lazare, le 52 de la rue de Turenne correspondrait au 320 de la rue Saint-Louis, et on a également une précision concernant le 64 de la rue de Turenne, donc à quelques pas d'ici, correspondante au 326 de la rue Saint-Louis. À noter, le numérotage là se fait à courir, il n'y a pas dans les rues de côté pair et de côté impair. Et en regardant donc cette numérotation, le 54 de la rue Turenne correspondrait peut-être au 321. Il faut remarquer que cette numérotation révolutionnaire, dans tous les sens du terme, bien qu'officielle, n'entra quasiment pas dans les usages, de même que la déchristianisation des noms de rue, du moins en ce qui concerne notre rue Saint-Louis, puisqu'un acte notarié du 18 mars 1993 signale la propriété formée des 54 et 56 rue de Turenne. Alors le 54, nous sommes au 54, le 56 c'est la maison qui fait le coin avec le 17 de la rue Lardouin. La situation de cette maison dans cet acte, c'est une maison située à Paris, rue Saint-Louis, donc on emploie toujours la dénomination de rue Saint-Louis, faisant le coin de la rue des Douze Portes. Il est vrai qu'à cette date, nous sommes au mois de mars 93, les montagnards ne sont pas encore au pouvoir et la déchristianisation des appellations n'est pas encore totale. Je passe sur la division de Paris en 60 districts, car cette division n'avait qu'un rôle électoral à l'origine, elle n'a duré qu'un an. Sous l'Ancien Régime, Paris est divisé en 16 quartiers, aux frontières plus ou moins mouvantes, plus ou moins fluctuantes. Depuis 1702, une autre difficulté, aux 16 quartiers municipaux, 16 quartiers de l'hôtel de ville, il faut ajouter les 20 quartiers du Châtelet, les quartiers des commissaires. Je n'entrerai pas évidemment dans l'origine de cette double subdivision. Sachez seulement que notre pâté de maison appartient au quartier de la Place Royale, ça c'est le quartier de l'hôtel de ville, et en ce qui concerne la subdivision du Châtelet, c'est le quartier du Temple ou du Marais. Mais le Parisien connaît essentiellement, je dirais presque uniquement, sa paroisse, et au XVIIe et au XVIIIe siècle, les actuels 52 et 54 de la rue de Turenne sont du ressort de la paroisse Saint-Gervais. Quant à la numérotation, évidemment, elle est une existence, malgré l'ordonnance royale du 1er mars 1768, qui prescrit la numérotation des maisons. Cette numérotation n'est pas appliquée à Paris, il faut attendre 1779 pour qu'un essai soit tenté, mais les Parisiens qui voyaient une mesure de contrôle fiscal freinèrent l'opération, et à la veille de la Révolution, cette numérotation n'est pas réellement, elle aussi, encore entrée dans les usages. Cependant, l'almanach royal de 1787, que j'ai consulté, signale la demeure du président de Gourgues, 54, donc, comme étant au 78 rue Saint-Louis. Quant au 52, cela correspondrait au 79 rue Saint-Louis. Là aussi, la numérotation se fait à courir, mais dans le sens inverse aujourd'hui, que celle utilisée actuellement. J'ai dit rue Saint-Louis, je devrais dire plus exactement rue Saint-Louis au Marais, et ce sera ma dernière remarque d'ordre topographique. Cette rue s'est vue ainsi baptisée à la fin du règne d'Henri IV, en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII, à l'occasion des travaux qui recouvrirent un égout ouvert, ce qui suivait l'actuel tracé de la rue de Turenne, je devrais dire plutôt l'inverse, la rue de Turenne suivait l'ancien tracé de l'égout, et dont les odeurs empoisonnaient les alentours. La rue, ou plus exactement la voie qui l'accompagnait, était auparavant dénommée ruelle ou rue de l'égout. Cet égout ouvert, qui partait à la hauteur de la rue Saint-Paul, se dirigeait à l'origine vers les fossés de la Bastille et portait le nom d'égout du Pont-Perrin, parce que la rue Saint-Antoine, qui s'appelait au XIVe siècle la rue du Pont-Perrin, entre la hauteur de l'actuelle église de Saint-Paul-Saint-Loup jusqu'à la Bastille, eh bien, il y avait donc cet égout, et on pouvait traverser, en passant par-dessus un pont qui s'appelait le Pont-Perrin. Ce Pont-Perrin se trouvait probablement à la hauteur de l'actuelle rue du Petit Musc. Et au début du XVe siècle, cet égout qui incommodait le roi qui logeait à l'hôtel Saint-Paul, il s'agissait de Charles VI, qui, s'il avait perdu l'esprit, ne semblait pas avoir perdu l'odorat, cet égout fut détourné vers le nord, en direction du grand égout du Temple, donnant ainsi naissance à un chemin qui est à l'origine de notre actuelle rue de Turenne. Les terrains traversés par l'égout, c'est-à-dire la partie orientale du Marais, n'étaient pas encore bâtis. La plupart de ces terrains étaient encore cultivés et portaient le nom de culture ou couture. Je vous ai fait distribuer donc ce petit plan qui avait été présenté en 1987 au cours d'une exposition sur le Marais. Sans aller jusqu'à débattre sur l'origine du nom de Marais, je précise malgré tout que la plupart des cultures qui sont situées à l'est de l'égout sont des cultures maraîchères, entre l'égout et l'enceinte de Charles V, qui suit le tracé de l'actuel boulevard Beaumarchais. On en a encore par certains noms, souvenirs de ces cultures maraîchères. Je rappellerai notamment la rue du Pont aux Choux, qui est pas très loin d'ici. Et ce quartier de Paris restera en culture pendant très longtemps, puisque quand on regarde ce qu'on appelle le plan de Bâle, alors il s'agit bien du plan de Paris, mais le plan a été découvert à la bibliothèque de Bâle, c'est le Paris du milieu du XVIe siècle, le plan de Truchet-Oyot. Malgré certaines fantaisies topographiques, on voit bien encore au XVIe siècle ces terrains, à quelques exceptions près, notamment en ce qui concerne le domaine royal des Tournelles, eh bien il n'y a quasiment pas de construction, ces terrains sont voués essentiellement aux cultures. Alors, à la fin du XIIIe siècle, je n'en montrerai pas plus haut, rassurez-vous, le temple domine ces terres. Le temple, c'est-à-dire les chevaliers du temple, plus précisément les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, ce sont eux qui ont en partie assaini ces terres marécageuses, qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier du Marais. À l'origine, la limite de Paris, c'était l'enceinte de Philippe Auguste, on était encore en dehors de Paris. C'était à partir de Charles V que toute cette région fera partie intégrante de la capitale. Et les privilèges royaux qui ont été accordés aux Templiers ont favorisé le peuplement de ces coutures où le temple régnait en maître, en constituant en quelque sorte, vous le savez, un état dans l'état. Et la suppression de l'ordre du temple en 1312 n'a pas arrêté le processus. Les successeurs du temple ont continué à attirer les colons, en quelque sorte. Les successeurs, ce sont les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire le futur ordre de Malte. Et parmi les bénéficiaires de ces coutures qui dépendaient originellement du temple, on a les hospitalières Saint-Gervais ou Saint-Anastase qui ont constitué ce qu'on a appelé la couture Saint-Gervais. L'hôpital Saint-Gervais, qui est apparu au XIIe siècle, n'est pas situé ici. Il était situé rue de la Tisserandrie, juste en face de l'église Saint-Gervais. Et en 1412, l'édification d'une chapelle sous le vocable de Saint-Anastase explique les deux appellations qu'on a données à cet ordre, soit les hospitalières Saint-Gervais ou les hospitalières Saint-Anastase. En 1342, les hospitalières avaient obtenu du temple des terrains situés dans le marais du temple, et c'est là l'origine donc de ce que l'on a appelé la couture Saint-Gervais. On en trouve encore, si vous voulez, quelques traces, notamment la rue Saint-Anastase. Ce que je n'ai pas compris, c'est la raison pour laquelle on a féminisé le saint. À l'origine, c'était les hospitalières Saint-Anastase, et la rue, c'est la rue Sainte-Anastase. Les hospitalières ne bouleversent pas du tout l'aspect de ces coutures, puisqu'elles le louent à des maraîchers, et lorsqu'au début du XVe siècle, l'égout est détourné vers le nord, ils traversent la couture Saint-Gervais, la plus grande partie de cette couture est située à l'est. À l'est, on a un petit terrain qui fait environ un peu plus de 2 hectares. Ce sont les 6 arpents qui nous intéressent et sur lesquels je reviendrai. À noter, le seigneur sansier de ces 6 arpents, c'est l'abbaye de Saint-Denis. Jusqu'aux premières années du XVIIe siècle, ces terrains qui se situent au nord du palais du parc des Tournelles formeront une zone d'exploitation rurale. Ce qui va changer l'aspect de cette partie du marais est, ce sont les décisions prises par Henri IV en 1605 de créer une place royale et en 1608 de créer une place de France qui, elle, ne sera jamais réalisée. Ces décisions ont été imposées, vous savez, par l'effort de reconstruction qui a été entrepris après les destructions du siège de Paris de 1589-1594. Effort de reconstruction à l'initiative du pouvoir royal, tout d'abord, citation du Mercure français de 1610, qui correspondrait un petit peu, après l'assassinat d'Henri IV, à ce qu'on appellerait aujourd'hui une notice nécrologique, j'ai relevé une phrase, sitôt qu'il fut maître de Paris, on ne vit que maçon en besogne. Le lotissement de l'hôtel des Tournelles, déjà commencé par Catherine de Médicis, en 1564, surtout continué par Henri IV, a permis l'édification de la place royale, aujourd'hui place des Vosges. Et à l'initiative royale a succédé l'initiative privée. D'abord les hospitaliers du temple en 1608 ont loti leur terrain, et puis aussi donc les hospitalières Saint-Gervais. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ce petit terrain de 6 arpents qui est situé à l'ouest de l'égout et qui avait fait l'objet d'une transaction dès 1605. Le 3 mars 1605, les hospitalières ont effectivement conclu un marché avec le capitaine Charles Marchand, capitaine des compagnies d'arquebusiers de la ville de Paris, et qui avait déjà acquis quelques lots de la place royale. Ce Charles Marchand est un puissant manieur d'affaires. Il va prendre les 6 arpents en bail emphytéotique de 99 ans pour utiliser le lotissement à son profit. l'opération est très lente. Elle est très lente parce qu'on hésite à acheter les lots. Le quartier est en effet excentrique. Il est loin du centre de décision de Paris, loin du Louvre, et ce caractère subsistera tout au long du XVIIe siècle. J'en veux pour preuve une lettre de l'envoyé à Paris de la cour de Turin, lettre du marquis de Saint-Maurice, qui écrivait à Charles-Emmanuel II, duc de Savoie, le 21 octobre 1667. Le roi viendra assurément à Paris après la Saint-Hubert, qu'il passera à Versailles. Il logera aux Tuileries. Messieurs Letellier et de Louvois qui habitaient au Marais, pour être plus proches, ont pris un logis tout contre Saint-Roch. Ainsi, tous les ministres logeront au même quartier. Donc, le Marais est considéré un petit peu comme à l'écart, bien qu'étant évidemment dans Paris. Et malgré son caractère résidentiel, le Marais n'est pas toujours considéré comme un quartier bien famé. Par exemple, un texte d'un voisin, le poète Scarron, qui est décédé le 7 octobre 1660, juste à côté, derrière moi, je dirais, bon, au 56 de la rue de Turenne, qui a écrit dans ses adieux au Marais 1656, « Sans le redouté Tirelaine qui la nuit en fait son domaine, ce quartier charmant que je dis serait un demi-paradis. » Donc, l'opération est très lente, et le capitaine Marchand meurt à la fin de l'année 1610, avant d'avoir pu réaliser le lotissement. Il va laisser une succession embrouillée et litigieuse, et les terrains vont rester en exploitation agricole. Il laisse aussi une fille, Madeleine, qui a épousé un ancien lieutenant civil, Nicolas Leget, qui deviendra premier président du Parlement de Paris en 1630. Et ce dernier va se faire adjuger les six arpents le 13 octobre 1631. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé de succession embrouillée litigieuse, puisque le Marchand, qui avait conclu un bail avec les hospitalières Saint-Gervais en 1610, eh bien, je dirais que l'affaire quasiment est conclue 21 ans plus tard. Et le 5 mai 1634, Nicolas Leget, donc le gendre du capitaine Marchand, il va passer une convention avec les hospitalières Saint-Gervais qui l'autorise à lotir, moyennant une rente de 2000 livres. Parenthèse, cette rente sera rachetée 20 ans plus tard par son neveu pour la somme de 44 000 livres. Dès que la convention entre Leget et les hospitaliers est signée, il va obtenir des trésoriers de France. Trésorier de France, c'est l'administration qui est chargée des bâtiments. Il va signer le 2 octobre 1634 un autre acte concernant l'alignement des terrains pour donner à la rue Saint-Louis une rectitude et une largeur uniforme de 7 toises et 4 pieds et demi, soit environ 15 mètres sur une longueur de 215 mètres. Le lotissement, il part du 70 de la rue de Turenne jusqu'au 52. Ici, nous nous trouvons à une maison qui serait située 18 rue Saint-Gilles pour remonter jusqu'à une maison au 14 de la rue Saint-Cloud. Voilà le lotissement des six arpents sur lequel donc seront bâtis les deux hôtels. Au nord-ouest du terrain, c'est-à-dire au 70 de la rue Turenne, Nicolas Leget va faire s'élever une plâtrière. Et cela lui permettra de bâtir un mur percé de portes tout le long de son terrain. En 1637, on va faire percer trois rues dans ce lotissement. Ces trois rues devront chacune mesurer 4 toises de large, c'est-à-dire entre 7 et 8 mètres approximativement. D'une part, parallèle à la rue de Turenne, c'est la rue qui portera d'abord le nom de rue Neuve des Minimes, puis ensuite rue Neuve Saint-Pierre. Ensuite, il y aura la rue Saint-Claude et la rue des 12 portes perpendiculaires à la rue Saint-Louis. La vente des parcelles va commencer dès 1636. La première parcelle vendue correspond à l'actuelle 60 rue de Turenne. C'est une parcelle qui a été étudiée donc par Bablon dans l'article que j'ai cité au début de cet exposé. Cette parcelle de 15 toises de face sur la rue et de 36 toises en profondeur. Ce qui fait un terrain, non bâti évidemment, hein, ce ne sont que des jardins, comme on dit dans l'acte, un ensemble de 540 toises carrées, vendu le 18 juillet 1636 pour 19 440 livres, ce qui nous fait 36 livres la toise, et ce qui ne semble pas trop élevé. J'ai trouvé le prix de la toise à Paris vers 1620, qui selon l'emplacement du terrain, ça vaut entre 6 et 55 livres. Donc, nous avons, 16 ans plus tard, un terrain vendu pour 36 livres la toise. L'acquéreur est Alphonsine de Balzac-Champsonnaise, épouse de Charles de Martel, sieur de Montpinçon et de Fontaine-Martel. Ce qui est important de savoir, c'est que leur fille Catherine épousera en 1647 Claude de Guénégo, et que le 60 de la rue Turenne, enfin l'actuel 60 de la rue Turenne, sera l'emplacement de l'hôtel de Guénégo. Aujourd'hui, évidemment, on parle plutôt de l'hôtel des Quevilly, ou hôtel dit du Grand Veneur. Au cours de l'année 1637, toutes les parcelles du 62 à 68 de Turenne, eh bien, ça sera vendu. Toutes les parcelles sont presque uniformes, elles sont toutes profondes de 36 toises, ce qui correspond à la distance qui sépare, nous sommes au XVIIe siècle, rue Saint-Louis, de la rue Neuf-Saint-Pierre, et la largeur varie de 10 à 15 toises selon évidemment les parcelles. Pour le reste, Nicolas Leget envisage de faire une opération immobilière, mais ça coûte cher. Il va se mettre en rapport avec deux entrepreneurs qui possédaient déjà des terrains et des chantiers dans les environs. Il s'agit du maître maçon Michel Villedot et du maître charpentier Claude Dublet. Et l'affaire semble d'importance puisque Villedot va s'adjoindre son gendre, l'architecte Louis Noblet. Un accord sera conclu entre les deux parties en juillet 1637. Leget leur vend les terrains qu'il ne souhaite pas conserver pour lui-même, à savoir un ensemble d'un peu plus de 2000 toises pour 62 000 livres. Et pour s'acquitter de cette somme importante, les deux entrepreneurs vont s'engager à construire pour Leget et sa famille 6 maisons qui correspondent au numéro 17 à 7 de la rue Villehardouin. Ils vont construire des maisons identiques et pour eux-mêmes, en face, ils construiront des maisons également uniformes. Il y aura donc d'un côté 6 maisons et 6 maisons, d'où le nom de la rue des 12 portes. Alors Leget a gardé pour lui-même les numéros 7 à 17 de la rue Villehardouin et, parce qu'il correspond actuellement au 54 et au 52 de la rue Turenne, du moins les 52 et 54 Turenne, il va les conserver, nous le verrons, jusqu'en 1638. Le président Leget, lui, meurt sans enfant en 1640, et les parcelles qu'il avait conservées vont passer à ses neveux et nièces. Les bâtiments jumeaux, donc les 52 et 54 Turenne, dont on ne connaît pas l'architecte, ont été élevés, dit Bablon, entre 1637 et 1654. Pour ma part, quand on regarde le plan de Gomboust, qui date, je crois, de 1650, approximativement, on a l'impression qu'à cet emplacement, on a encore des terrains. Ce qui signifierait que les deux hôtels ne se sont élevés qu'à partir de 1650. Et il est probable que les deux entrepreneurs ont été les mêmes que pour l'ensemble du pâté de maison, à savoir Villedot et Dublet. J'ai signalé que les six arpents du lotissement Leget étaient situés sur la censive de l'abbaye de Saint-Denis. Je n'ai malheureusement pu encore à ce jour en déterminer l'origine. Malgré tout, c'est important, j'ai retrouvé aux archives nationales un carton qui contient tous les titres de la censive de l'abbaye de Saint-Denis sur des maisons, je cite, sur des maisons cises, rue Saint-Louis, Saint-Gilles, Saint-Pierre et des Douze Portes. Alors évidemment, malheureusement, on n'a pas l'origine de l'arrivée de l'abbaye de Saint-Denis dans ce carton, mais ce qui est important, c'est qu'on a la liste des propriétaires des parcelles. Et puis on dispose aussi d'un petit registre daté de 1744, dans lequel on trouve des copies d'actes de 1745 et 46, et le registre a pour titre « Terrier de la rue Saint-Louis et les environs ». Quand on consulte ce registre, on s'aperçoit que si à l'origine il n'y a eu qu'une seule et même propriété, pour les 52 et 54 de la rue Turenne, très rapidement, du fait des différents héritages, l'ensemble s'est trouvé divisé en deux lots. On a d'une part le 52 de la rue Turenne, et d'autre part le 54, auquel il faut joindre, toujours en fonction des héritages, les 15 et 17 rue Villehardouin. Autre précision, et de taille, si on en croit le dictionnaire historique des rues de Paris, le comte de Montrésor, contrairement à ce qu'en dit Jacques Hilleret, ne figure pas dans la liste des propriétaires. C'est donc en simple locataire qu'il a donné son nom à l'un des deux bâtiments. Bon, on était courant au XVIIe siècle, hein, souvenons-nous des différents déménagements de la marquise de Sévigné, la noblesse n'était pas forcément propriétaire des hôtels qu'elle habitait, car avoir un hôtel demandait des disponibilités importantes, surtout qu'il fallait très souvent payer de grosses sommes en un court laps de temps. Alors donc, au comte de Montrésor a donc bien habité ici, mais pas en tant que propriétaire, et seulement, non pas, comme on le lit, à partir de 1608, mais uniquement à partir de 1655. 1608, ce n'est pas possible. 1608, c'est la date de naissance de mon trésor. Et évidemment, il n'y avait aucune construction à cet emplacement. Il l'a habité jusqu'à sa mort en 1663. Quelques mots sur le personnage. Claude de Bourdeille, comte de Montrésor, petit-neveu de Brantôme et favori de Gaston d'Orléans. Il a écrit ses mémoires. Mémoires publiées l'année même de sa mort à Cologne. L'édition porte la ville de Cologne. Je ne sais pas évidemment s'il faut croire que ça a été réellement publié dans cette ville. Il les a écrits surtout pour se justifier. Vous connaissez peut-être un petit peu le comte de Montrésor. C'est un personnage assez agité qui a participé à de nombreux complots, tant contre Richelieu que contre Mazarin, ce qui lui a posé évidemment beaucoup d'ennuis, un exil en Angleterre, des séjours à la Bastille et à Vincennes. Il a effectivement, et ça ne pouvait pas la manquer, il a participé à la Fronde, et il ne s'est assagi qu'à partir de 1655. La Rochefoucauld le considère dans ses mémoires comme un ami bien compromettant, et le cardinal de Retz dit de lui, « Il était d'autant plus dangereux pour conseiller les grandes choses qu'il les avait beaucoup plus dans l'esprit que dans le cœur. Les gens de ce caractère n'exécutent rien, et par cette raison, ils conseillent tout. » Alors, malheureusement, en ce qui concerne ses mémoires, elles s'arrêtent au moment où commencent les premiers troubles de la Fronde, ce qui fait qu'évidemment, il ne parle pas de ses différentes demeures à Paris. Ceci étant dit, revenons-en à notre propriété et au propriétaire. À l'origine, nous avons donc Nicolas Leget, et en 1638, il va vendre les 52 et 54 Turenne, donc les deux parcelles qui nous intéressent, à Catherine Charpentier, c'est la veuve de Pierre Méraud, et non pas Machaut, comme on peut le lire dans le dictionnaire historique des rues de Paris. Les héritiers Leget ne conserveront dans un premier temps que les 15 et 17 rues de Villehardouin. La famille Méraud, après la mort de Catherine Charpentier, dans un premier temps, vont hériter donc des deux parcelles. Donc, très rapidement, l'ensemble qui appartenait à la famille Leget, ces deux parcelles, qui sont les parcelles les plus importantes, vont appartenir à la famille Méraud. Le 54 rue de Turenne va être acquis par héritage par Pierre Méraud, le fils de Catherine Charpentier, Pierre Méraud, seigneur de Corbeville et de Beaune, et son frère Nicolas, lui, a hérité du 52 de la rue de Turenne. La famille Méraud, une famille de Robins parisiens et de France, qui compte des échevins de Paris, des conseillers à la Cour des aides, des conseillers au Châtelet, des conseillers au Parlement de Paris. Le 52 de la rue Turenne va rester donc dans la famille Méraud jusqu'en 1754. La succession des propriétaires pour le 52 est assez simple, car l'héritage ne sera jamais morcelé. Il appartiendra à cette branche des Méraud que l'on appelle les seigneurs du GIF. Le dernier Méraud, propriétaire du 52, c'est Claude Méraud, seigneur de Gif et vicomte de Châteaufort, lieutenant du roi au gouvernement du comté de Bourgogne. C'est l'arrière-petit-fils de Nicolas Méraud, le fils de Catherine Charpentier, donc qui avait hérité du 52, et il vendra sa propriété, sa parcelle, le 8 avril 1754, au marquis de Custines, qui n'en profitera pas longtemps, puisque le marquis de Custines, vous le savez, est mort en février 1757 à la bataille de Rosbach. Le terrier de l'abbaye de Saint-Denis donne une très brève description de la propriété à la date du 3 avril 1745, c'est-à-dire le 52 rue Turenne, notre bâtiment, je lis, « Un hôtel, 6 rue Saint-Louis au Marais, consistant en porte-cochère, bâtiment au-dessus et à côté, et un autre bâtiment à droite, un grand corps d'hôtel entre cour et jardin, deux pavillons, un autre corps de logis sur le derrière, ayant son entrée par la rue Neuf-Saint-Pierre, et autres lieux aisance, circonstances et dépendances, contenant 350 toises de superficie. » Ça correspond à peu près à 1300 m². Pour le 54 de la rue Turenne, les différentes successions sont plus enchevêtrées. Pierre Méraud, seigneur de Corbeville et de Beaune, c'est-à-dire le frère de Nicolas Méraud, il va acheter aux héritiers Leget les 15 et 17 rues Villehardouin. Pierre Méraud meurt en 1668 sans postérité. Et c'est à partir de ce moment-là que la propriété va être morcelée. Le 17 de la rue Villehardouin, le 17 rue Villehardouin correspond et aussi au 56 rue de Turenne, hein, c'est la même maison, va appartenir pour moitié aux créanciers de la famille Méraud jusqu'en 1683, date à laquelle Jérôme Méraud de Boinville hérite de l'autre moitié et leur achète leur part pour en garder la totalité. Ce même Jérôme Méraud, appelé Jérôme Machaut dans le dictionnaire historique des rues de Paris, c'est donc le neveu de Pierre Méraud, Il a donc hérité de la moitié 15 rue de Villehardouin également et du 54 rue de Turenne. Les autres héritiers sont tous neveux de Pierre Méraud. Pierre Delarche, alors Pierre Delarche, il a épousé une des filles de Pierre Méraud. Abel de Sainte-Marthe, seigneur de Corbeville, il est conseiller à la cour des aides, et c'est surtout le neveu des jumeaux de Sainte-Marthe, historiographe. Son père avait épousé Geneviève Méraud, sœur de Pierre. Pour bien voir la complexité des héritages, eh bien le numéro 54 de la rue de Turenne était divisé comme suit vers les années 1680. Il y en avait la moitié à Jérôme Méraud de Boinville, 5 douzièmes à Pierre Delarche, 1 douzième à Abel de Sainte-Marthe. Et le 26 mars 1703, Jérôme vend la moitié de l'hôtel du 54 rue de Turenne à Anne Lair, veuve depuis 1695, de Nicolas Doublet, marquis de Persan. Elle meurt en avril 1704, et son fils cadet, Pierre Doublet de Crouy, marquis de Bandeville, hérite de la moitié de l'hôtel qui constitue actuellement le numéro 54. En 1704 et 1705, Pierre Doublet de Crouy rachète leur part aux héritiers de Pierre Méraud, et devient enfin le seul propriétaire du 54 rue de Turenne et 15 rue Villehardouin. L'appellation actuelle. Hein. Le 17 rue Villehardouin appartient toujours à Jérôme Méraud de Boinville. La réunion de l'ensemble sera réalisée, à l'exception du 52, qui sera toujours séparé, sera réalisée par Armand Jacques de Gourgues le 19 octobre 1707 et le 18 avril 1715. Il va racheter donc toutes les parcelles. Armand Jacques de Gourgues, marquis de Vert, après avoir été maître des requêtes au Parlement de Paris, il a été intendant à Limoges et à Caen. Il appartient évidemment, comme on dit tout à l'heure, à une grande famille de parlementaires parisiens qui s'alliera deux fois au Lamoignon. Les preuves de noblesse de cette famille remontent au règne de François Ier, bien que la famille prétend descendre d'un secrétaire de Philippe le Bel. En simplifiant quelque peu, nous pouvons affirmer que cette partie du lotissement de 1634 restera entre les mains de la famille de Gourgues jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire le 54 de la rue de Turenne et 56 rue de Turenne, 17 rue de Villehardouin. Le terrier de l'abbaye de Saint-Denis, déjà cité, nous donne cette description datée du 22 mars 1746. Monsieur de Gourgues est propriétaire d'un grand hôtel appelé l'Hôtel de Gourgues, situé à Paris au Marais du Temple, rue Saint-Louis, paroisse Saint-Gervais, consistant en trois cours de logis, l'un sur le devant, l'autre en est et le troisième entre cours et jardins, composé en différents appartements, circonstances et dépendances du dit hôtel, qui contient en totalité, y compris la cour et le jardin en superficie, 350 toises de terrain, plus la basse cour servant au dit hôtel qui a sa sortie rue des Douze Portes, dans laquelle il y a écurie, plusieurs chambres et greniers et lieux d'aisance, et autres appartenances et dépendances, contenant 36 toises de terrain en superficie. En 1789, ce que nous appelons donc aujourd'hui Hôtel de Gourgues est constitué de deux propriétés. Le 54 rue de Turenne, plus des maisons de la rue Villehardouin, c'est le véritable Hôtel de Gourgues, qui appartient donc à l'abbé de la Révolution, à Armand Guillaume-François de Gourgues, marquis de Vert et d'Aulnay, président à mort au Parlement de Paris. Quant au 52 de la rue de Turenne, il appartient à François Mathieu Duport, conseiller au Parlement de Paris. C'est le père d'Adrien Duport, le constituant et le fondateur du Club des Feuillants, avec la tourmente révolutionnaire. Le président de Gourgues et le conseiller Duport seront tous deux arrêtés comme suspects et condamnés à mort d'ailleurs le même jour, le premier Floréal en deux, c'est-à-dire le 20 avril 1794. Les deux propriétés ont été confisquées, sont alors devenues biens nationaux de la ville de Paris. Après avoir été loué en 1797 à un citoyen nommé Tuboeuf, le 52 de la rue de Turenne a été vendu au citoyen Favreau. Alors, citoyen Favreau, on a la chance de le connaître parce que c'était un officier général, il était général de brigade et inspecteur des troupes de marine. Il est mort en 1825. Il a donc pu certainement conserver la propriété jusqu'à sa mort, puisque les héritiers de la famille Duport n'ont pu être indemnisés qu'à partir de 1826, sans pour autant retrouver leurs biens. Le 54, lui, de la rue de Turenne, sera loué le 1er juillet 1793 aux citoyens Touche. Et il semblerait que les héritiers du président de Gourgues aient pu retrouver leurs biens en 1795. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver de preuves formelles. La consultation du sommier foncier aux Archives de Paris pourra peut-être me l'apporter. Je n'ai pas encore totalement terminé mes investigations. Ce que je peux dire, par contre, c'est par la consultation de l'almanach royal, impérial et national, selon les différents régimes qui se sont succédés au XIXe siècle, c'est que le 32 rue Saint-Louis, c'est-à-dire ce qui correspond au 54 de la rue de Turenne, eh bien, a, depuis la Restauration, abrité un pensionnat de jeunes filles. On en connaît la première directrice, qui s'appelait Madame Lemaire, entre les années 1829 et 1843. La dernière, Madame Boutron, de 1874 à 1882. La ville de Paris, à la suite des lois Ferry sur la scolarisation obligatoire, ouvrira au 52-54 rue de Turenne une école primaire et une école maternelle, mais je suis incapable de vous dire de façon précise la date à laquelle ces écoles deviendront écoles de la ville de Paris, car l'almanach de 1882 indique encore qu'au 54, il y a un pensionnat de jeunes filles. Par contre, j'ai retrouvé, à la date du 26 juin 1908, un vote du conseil municipal. Le conseil municipal de Paris a voté l'acquisition de l'immeuble scolaire du 54 de la rue de Turenne pour la somme de 600 000 francs. Et au cours des discussions, le conseil municipal déclare vouloir traiter aux conditions d'un bail déjà signé entre la ville de Paris et les propriétaires, qui s'appelait Monsieur et Madame Georgeon, et ce bail avait déjà été signé en 1880. Est-ce sur la foi de ce bail que dans la plupart des ouvrages on lit que les 52-54 culturels sont l'école de la ville de Paris depuis 1880, je ne sais pas, mais enfin, disons que je n'en ai pas la preuve formelle. Je vous le dis, pour tout ce qui concerne le 19e siècle, il existe certainement beaucoup de choses encore à voir. J'en suis moins sûr, malheureusement, pour ce qui est antérieur à la Révolution. La plupart des fonds d'archives concernant de façon précise l'hôtel de Gourgues ou de Montrésor, enfin, disons qu'on ne les a pas retrouvés, si cela avait été le cas, je suppose qu'une étude aurait déjà été faite. Dans le fichier de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, on ne trouve que les rapports de la Commission du Vieux-Paris. Bon, peut-être qu'il y a d'autres sources où le fichier est incomplet. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Le seul point sur lequel j'ai peut-être trouvé par rapport à ce qui est imprimé actuellement dans différents ouvrages, c'est que ce qu'on appelle actuellement l'hôtel de Montrésor ou l'hôtel de Gourgues, eh bien, ce n'est pas les 52 et 54 rue de Turenne, mais ce ne peut être que le 54. Et cette appellation, donc, pour l'ensemble des deux bâtiments, est certainement abusive. J'espère évidemment arriver un jour au terme de cette investigation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de votre patience. Si vous avez des questions à me poser...